Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir. À l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de l'Organisation des Nations Unies, le pape François a envoyé ce vendredi un message vidéo aux participants de l'Assemblée Générale qui réunit à New York et virtuellement les chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Dans son adresse, le Saint-Père souhaite que la crise née de la Covid-19 soit une opportunité pour générer une société plus fraternelle et compassionnelle. Le compte-rendu de Xavier Sartre.
Il y a d'abord un constat. La crise du coronavirus bouleverse tout notre monde dans ses moindres aspects. Profitons-en donc pour en sortir meilleur, exhorte le pape. Pour cela, nous pouvons agir dans plusieurs domaines, comme le travail, qui doit rendre toute sa dignité aux personnes. Le modèle économique doit être repensé afin que donner du travail à plus de personnes soit l'un des principaux objectifs des entreprises. Concernant les droits fondamentaux, souvent bafoués, François souligne le sort des chrétiens, parfois obligés de fuir. Mais aussi celui des réfugiés, des déplacés internes et des migrants, soumis à toutes sortes de formes d'exploitation. C'est intolérable, assène le pape, et pourtant, regrette-t-il, c'est aujourd'hui une réalité que beaucoup ignorent intentionnellement. Pour sortir par le haut de cette crise, il convient donc, selon le pape, outre une réorganisation de tout le système économique et financier mondial, de s'appuyer sur le principe de subsidiarité en investissant dans l'éducation notamment et en réduisant ou annulant la dette qui pèse sur les épaules des plus pauvres. Une attention toute particulière doit être aussi apportée aux enfants, trop souvent encore victimes d'exploitation et que la crise pandémique prive pour certains d'école, aux femmes, trop souvent aussi victime de différentes formes d'exploitation ou d'oppression. Le pape place ainsi chacun devant ses responsabilités, invitant à davantage s'engager dans la lutte contre les pratiques perverses qui dénigrent non seulement les femmes, mais aussi toute l'humanité qui, par son silence et son inaction effective, se fait complice.
Et concernant le multilatéralisme, le pape souhaite que l'ONU soit un atelier pour la paix et invite les membres permanents du Conseil de sécurité à agir avec unité et détermination, saluant ainsi la résolution qui a appelé à un cessez-le-feu global pendant ce temps de pandémie. Plus de détails sur le message d'aujourd'hui à retrouver bien sûr sur notre site vaticannews.va. Parmi les autres prises de parole ce vendredi de responsables internationaux, notons celle du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a demandé aux Nations Unies l'organisation d'une conférence internationale début 2021 sur le sort des Palestiniens, une demande pour mettre fin à l'occupation israélienne et qui se veut une réponse au plan de paix du président américain Donald Trump que le monde entier a rejeté selon les mots de Mahmoud Abbas. Dans le reste de l'actualité internationale, ce nouvel attentat à Paris. Deux personnes ont été blessées à l'arme blanche ce vendredi en fin de matinée. L'attaque a eu lieu dans le 11e arrondissement de la capitale française, non loin des anciens locaux de Charlie Hebdo. Les victimes sont elles-mêmes des journalistes travaillant pour une agence de presse. Le parquet national antiterroriste a été saisi. Un attentat qui intervient dans un climat lourd en France, alors que le procès des attentats meurtriers de janvier 2015, qui ont visé notamment le journal satirique, ont lieu en ce moment. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
Selon les enquêteurs, l'auteur principal de l'attentat se trouve en garde à vue. Il s'agit d'un jeune homme de 18 ans, originaire du Pakistan, qui était connu des services de police pour une affaire de port d'armes prohibée. Un deuxième homme, âgé de 33 ans, est lui aussi entendu par la police. Les deux blessés sont un homme et une femme, employés par une société de production audiovisuelle, travaillant notamment pour deux émissions phares de la télévision publique française. Ils ont été gravement blessés dans cet attentat perpétré au couteau de boucherie. Le président Emmanuel Macron suit de près les événements et son Premier ministre promet que le gouvernement a, et je cite, « la volonté résolue par tous les moyens de lutter contre le terrorisme ». Mais alors, pourquoi n'y avait-il pas de protection policière à cette adresse, au moins depuis l'ouverture du procès des attentats de 2015, demande Emmanuel Gagné, rédacteur en chef d'une émission de télévision qui sous-traite certaines de ses enquêtes à la société de production pour laquelle travaillent les blessés. L'attentat d'aujourd'hui intervient pendant le procès des attentats de 2015 qui avaient tué 17 personnes, dont 12 au sein de la rédaction de Charlie Hebdo. Au tribunal de Paris, le procès a repris en fin d'après-midi après avoir été brièvement suspendu suite à l'annonce de l'attentat. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
Et cette nouvelle attaque a provoqué une grande émotion et suscité de nombreux messages de solidarité dans la classe politique en France ou en Europe. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a fait part de sa pleine solidarité avec le peuple français, tout comme le président du Conseil italien, Giuseppe Conte. La Chine espère produire d'ici la fin de l'année plus de 610 millions de doses de vaccins contre le coronavirus. 11 vaccins chinois sur 59 projets sont déjà en phase de tests cliniques selon les autorités sanitaires de Pékin. Une production annuelle qui devrait être portée à plus d'un milliard de doses dès 2021 selon le ministère chinois de la Santé. Un président de transition investi au Mali, Bando, ancien officier âgé de 70 ans, a prêté serment ce vendredi à Bamako en promettant le retour d'un gouvernement civil dans le pays d'ici 18 mois. Le 18 août dernier, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta avait été contraint à quitter ses fonctions après un putsch de l'armée. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, a placé le Mali sous sanction, expliquant qu'elle serait levée une fois un gouvernement civil de nouveau investi. Un accord en Pologne entre les syndicats de mineurs et le gouvernement. En grève depuis lundi dernier, des centaines de mineurs protestaient contre la fermeture annoncée d'ici 2050 des mines dans le pays. La Pologne est encore dépendante à 80% du charbon dans sa production d'électricité. Quelques 80 000 personnes travaillent toujours dans le secteur minier. Le président polonais Andrzej Duda a lui été reçu ce matin par le pape François au palais apostolique. C'est leur quatrième rencontre en 5 ans. Il s'agissait aussi de la première visite officielle d'un chef d'État étranger au Vatican depuis l'apparition de la pandémie. Les entretiens ont eu lieu dans le cadre du centenaire de la naissance de Saint Jean-Paul II et du 40e anniversaire de la fondation du syndicat autonome indépendant Solidarnosc. Le président polonais qui a également participé à une messe célébrée sur la tombe de Saint Jean-Paul II dans la basilique Saint-Pierre. En France, 68 associations ont appelé à manifester demain pour les droits des personnes exilées à Calais, dans le nord du pays. Un arrêté préfectoral interdit la distribution de nourriture aux migrants dans le centre de cette ville. Ces associations, parmi lesquelles figurent le Secours catholique ou encore le CCFD Terre solidaire, dénoncent des entraves à leur travail. Hier, la défenseure des droits avait dénoncé des conditions de vie dégradantes et inhumaines des migrants à Calais. Et retour justement sur la migration et le droit d'asile en Europe. 5 ans après la crise migratoire de 2015, la nouvelle réforme de l'asile présentée mercredi par l'Union européenne prévoit des durcissements sur les renvois de migrants, plus de contrôles aux frontières et une accélération des procédures. La Commission européenne a annoncé également la fin du règlement de Dublin qui faisait peser la demande d'asile sur le premier pays d'arrivée sur le continent européen. Dans le nouveau pacte migratoire, les pays de première arrivée resteront chargés de la demande, mais un État soumis à une pression migratoire trop forte pourra demander de l'aide via l'activation d'un mécanisme de solidarité obligatoire. Ce principe de solidarité choisie est-il applicable dans les faits? Nous avons posé la question à Leïla Baudeux, elle est chargée de plaidoyer sur les questions asile et migration à Caritas Europe.
Le problème, c'est qu'il est extrêmement complexe, donc c'est une solidarité obligatoire, mais à la carte. Donc la Commission n'a pas voulu imposer des relocalisations obligatoires pour des raisons politiques que l'on connaît. Et donc, les pays vont pouvoir choisir la manière dont elles veulent montrer leur solidarité. Cela pourra être via la relocalisation ou via le sponsorship du retour d'une personne dont la demande d'asile a été déboutée. Et donc, pour nous, ça, c'est problématique, évidemment, de donner un peu l'option de se focaliser davantage sur les retours par rapport à la relocalisation. Néanmoins, il faut souligner qu'il y a quand même des recherches de rendre un peu cette solidarité un peu plus pérenne et plus stable par rapport à la Commission européenne, même si on a un peu peur par rapport à la mise en place et la pratique, car ce mécanisme est extrêmement compliqué.
L'accord de Dublin est aboli, mais la notion de pays d'arrivée dans l'Union reste toujours. Peut-on au final réellement dire que Dublin n'existe plus ?
Ben donc Dublin n'a apparemment été aboli, mais a été un petit peu remodifié, le nom a disparu, mais le concept reste. Donc il y a toujours ce critère de première entrée dans le pays d'arrivée, qui par défaut, donc une personne qui arrive dans le premier pays d'arrivée, ce pays devra prendre en charge sa demande d'asile. Néanmoins, il y a toute une série d'hierarchies de critères, comme cela existait sous Dublin. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en compte, par exemple, s'il y a des liens familiaux avec un autre pays. Alors à ce moment-là, ça sera un autre pays qui sera responsable de la demande d'asile. Mais donc ça, ces mesures de hiérarchie des critères existent déjà. Et ce que l'on peut souligner de positif, c'est que la proposition de la Commission européenne essaye de faciliter les critères liés à la réunification familiale pour déterminer le pays qui prendra en charge la demande d'asile. Par exemple, la Commission a élargi la définition de famille pour y inclure aussi les sœurs et frères. Donc ça, c'est quelque chose quand même de positif.
Interrogée par Marine Henriot, Leïla Baudeux, chargée de plaidoyer sur les questions asile et migration à Caritas Europe, était l'invitée de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin à 8h30 pour un nouveau journal. Je vous souhaite une excellente soirée.